Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre magazine Droits et citoyenneté. Nous parlons aujourd'hui de la problématique du financement public des partis politiques. Les partis politiques ayant au moins un élu lors de la législature de 2011 devaient bénéficier d'une subvention de l'État en 2012. Au moment où tous les partis se préparent à affronter les échéances électorales de décembre prochain, la question du financement de leurs campagnes électorales refait surface dans leurs états-majors. La loi irrelative n'est toujours pas d'application. S'agit-il d'un oubli? Pourquoi la loi sur le financement public des partis politiques n'est pas exécutée alors qu'une autre législature approche? Pourquoi l'État doit financer les partis politiques? Quelle est la conséquence du retard survenu dans l'application de cette loi? Droits et citoyenneté aborde cette problématique avec comme invité principal le sénateur Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel et inspecteur du Mouvement pour la libération du Congo, MLC.
Professeur Jacques Joly, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeff Ngoy.
Nous recevons également les partis Orange et Force Novatrice pour l'Union et la Solidarité, FONUS, respectivement de l'opposition Rassemblement Limité et Rassemblement Kasavubu, ainsi que l'Union pour le Développement du Congo, IDECO, parti de la majorité présidentielle. Cette émission est coordonnée et présentée par Jeff Ngoy Mulonda sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele. Encore une fois, bienvenue dans votre magazine Droits et citoyenneté qui se penche sur la problématique du financement public des partis politiques. Comme vous le savez, la loi numéro 08/005 du 10 juin 2008 portant financement public des partis politiques dispose que les partis politiques peuvent recevoir de l'État des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités dans les conditions que la loi définit. Pour commencer, le professeur Jacques Joly nous explique le fonctionnement des démocraties modernes à travers cette loi, son enjeu sinon sa pertinence en RDC.
Le parti politique sont les moteurs d'une démocratie. Si vous voulez avoir une grande démocratie, il faut avoir des partis forts et des partis démocratiques. Et notre pays qui a pris pour identité d'être une république démocratique du Congo, dans sa constitution à l'article 6, qui consacre le pluralisme, affirme que les partis politiques doivent concourir à l'expression du suffrage, ensuite au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Troisième mission, ces partis politiques doivent, dans cette perspective, se former et exercer librement. Mais pour atteindre cet objectif, la Constitution va plus loin. La Constitution dit que les partis politiques peuvent recevoir de l'État de fonds publics destinés à financer leur campagne électorale ou leurs activités dans les conditions définies par la loi. Voilà donc la base constitutionnelle qui ouvre donc la possibilité à l'État de financer le parti politique. C'est donc sur base, n'est-ce pas, de cette disposition constitutionnelle que l'a été initiée la loi numéro 08/05 du 10 juin 2008 portant financement public de partis politiques.
Et la commission interministérielle prévue par la loi pour contrôler ces financements sous les du ministère de l'Intérieur n'a jamais existé. À votre avis, qu'est-ce qui peut justifier ce retard? Est-ce que cette loi a été votée pour être mise au placard?
L'objectif ou la ratio legis de cette loi s'est déclinée en 6 points. Premier point, si nous voulons avoir une démocratie solide, si nous voulons stabiliser notre démocratie, eh bien, il fallait renforcer au préalable la capacité d'action des partis politiques. Donc, il fallait le financer. Deuxièmement, il était important d'asseoir l'indépendance des partis politiques par rapport à leurs fondateurs et en dotant le parti des moyens propres. Troisième point, il était important que dans une démocratie, on puisse assurer l'égalité de chance à tous les autres partis. Vous savez, aujourd'hui, nous assistons à un phénomène de transhumance, de débauchage, de la course vers la casserole ou la marmite, parce que animer un parti politique sans être au gouvernement n'est pas facile. Et cette loi avait, n'est-ce pas, senti ces dangers. Quatrièmement, il était question de la moralisation de l'activité politique. Vous avez suivi les débats qu'il y a eu à l'Assemblée autour de la dernière loi électorale. En fait, la question de la moralisation ne se pose pas dans la loi électorale, mais dans le financement des partis politiques. Et cinquièmement, il était important de pouvoir la vertu de l'égalité de traitement. Et enfin, il était important de doter les partis d'un minimum de moyens pour le financement de leurs activités.
Nous parlons de la problématique du financement public des partis politiques. Évoquant les conditions définies par cette loi pour bénéficier du financement public, le sénateur Jacques Joly parle des raisons qui ont prévalu au vote parlementaire de la dite loi.
Et dans les conditions de création d'un parti politique, parmi les fondateurs, le 11 dans l'ancienne configuration, les 26 fondateurs doivent être issus de l'ensemble du territoire. Donc il faut énormément de moyens. Voilà pourquoi on a rapidement, pour consolider notre démocratie en 2008, adopté cette loi, et la loi a été promulguée, comme vous l'avez dit, depuis le mois de juin 2008. Et comme vous le remarquez, on avait donné à l'État le temps. C'est-à-dire, cette loi-là devait entrer en vigueur à la législature suivante. Donc, cette législature qui a commencé en 2011. Malheureusement, comme vous le dites, ce qui est d'ailleurs le cas de la plupart de nos lois. Le Sénat a évalué, par exemple, à 250 lois adoptées et promulguées. Mais la question essentielle, c'est
que deviennent toutes ces lois-là?
Quelles deviennent toutes ces lois? Voilà pourquoi dans d'autres parlements, comme le Parlement français, outre la mission d'adoption de lois, la mission de contrôle, il faut l'évaluation. Et je terminerai sur ce point-là, rappelant ce que le président Kengo a dit, reprenant une phrase de Thomas Edison: lorsque vous avez la vision législative sans la capacité d'exécution, c'est une hallucination. Et malheureusement, c'est le cas de cette loi.
Quelles en sont les responsabilités au niveau des parlementaires et de l'État? On écoute à présent l'avocat Aimé Kilolo, secrétaire général de l'UDECO, parti de la majorité présidentielle.
Ce qui est important à dire d'emblée, c'est que lorsque l'on parle de financement de partis politiques, financement par le trésor public, c'est un financement qui est accessoire, qui est marginal. Un parti politique vit conformément à la loi sur les partis politiques sur base de ses ressources propres, qui sont d'ailleurs très clairement définies. C'est d'abord les cotisations des membres. Deuxièmement, mais c'est aussi des dons de legs qui peuvent provenir des particuliers qui ne soient pas nécessairement des membres effectifs de ce parti. Mais là, attention, ces dons que reçoit un parti politique ne peuvent pas provenir d'une origine délictuelle ou frauduleuse, parce que là, ce serait une infraction pénale de recel. Deuxièmement, le don ne peut pas provenir d'un État étranger. Je le dis parce que un certain nombre de partis politiques en République démocratique du Congo ont tendance à solliciter parfois de gouvernements étrangers ou des États étrangers de l'aide pour appuyer le financement de leurs partis politiques. Il faut savoir que la sanction d'un don provenant d'un État étranger, c'est la dissolution automatique de ce parti politique. Troisièmement, le don ne peut pas provenir d'une entreprise publique ou d'une société commerciale, parce que cela ne correspond pas à l'objet social, notamment des entreprises. Sinon, ce serait là aussi un détournement de fonds sociaux qui constitue aussi... Alors, ce qui est aussi important à dire aujourd'hui, c'est la problématique de l'éligibilité au financement. C'est extrêmement important parce que, en réalité, la République démocratique du Congo compte aujourd'hui environ 600 partis politiques. Mais ce ne sont pas tous les partis politiques qui sont en droit aujourd'hui de réclamer le bénéfice du financement public. Parce que la première condition, c'est d'avoir des élus. Alors, avoir des élus, ça veut donc dire aussi que pour les élections qui vont arriver à partir de décembre 2018, c'est seulement a posteriori, c'est-à-dire une fois les élections terminées, si l'on a pu produire des élus, que ce soit au niveau du Sénat, de l'Assemblée nationale ou des assemblées provinciales ou même des assemblées locales, ce n'est que à ce moment-là que ces partis politiques-là, au prorata du nombre de leurs élus, pourraient effectivement demander le bénéfice de financement public. Donc ça veut dire, ça exclut des revendications actuelles à un financement pour financer les élections qui sont prévues prochainement au mois de décembre. Cela n'est tout simplement pas possible.
Mais concernant la législature précédente,
il faut aussi dire ceci. La loi de 2008 sur le financement public des partis politiques avait prévu qu'elle prendrait cours à compter de la législature de 2011.
Donc,
ça veut dire que les partis politiques, je pense qu'il s'agit seulement d'une cinquantaine sur les 600 partis politiques qui existent, qui ont pu réellement produire des élus dans les différentes assemblées électives. Alors, Une des conditions pour que ces partis politiques puissent revendiquer, même maintenant, le bénéfice du financement public, il fallait qu'il puisse y avoir dans le budget annuel, à compter de 2011, une rubrique dans la loi des finances qui prévoit effectivement...
Une quotité.
Effectivement. Et donc, lorsque l'on prend l'exemple du budget actuel, l'exercice actuel, on voit que c'est plus ou moins 5 milliards de dollars. La loi prévoit que pour financer la campagne électorale, le montant global à partager sur l'ensemble des partis politiques au Congo, c'est l'équivalent de 2% de recettes annuelles de l'État. Ce qui correspond pour un budget de 5 milliards à environ 100 millions de dollars. Lorsque l'on tient compte de cela, la question à se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que dans les différentes lois des finances depuis 2011, on n'a pas voté une clause qui insère cette rubrique sur les financements de partis politiques. Mais c'est une question de responsabilité et c'est aux députés de répondre à cette question. Mais c'est aussi aux responsables des différents partis politiques. Pourquoi n'avez-vous pas poussé, demandé à vos députés de promouvoir une proposition de loi à insérer dans la loi des finances qui prévoirait donc une rubrique pour que les partis politiques puissent effectivement bénéficier du financement.
Ce financement.
Et donc là, c'est véritablement une question qui se pose. Est-ce que c'est un oubli de la part des partis politiques ou de leurs députés? Est-ce qu'il y a eu un problème de compétence à ce sujet? En tout cas, c'est une question de responsabilité qu'il faudrait remettre sur la table.
La passion des sports, c'est sur Radio Okapi.
Nous sommes toujours ensemble sur la fréquence de la paix. Et nous parlons de la problématique du financement public des partis politiques. Les conditions pour accéder à ces financements sont bien définies par la loi, selon notre invité principal. Mais l'absence d'application explique aussi la violation de la loi portant statut des partis politiques qui sont atomisés en RDC, à en croire le professeur.
Les partis politiques aujourd'hui sont des structures atomistiques à direction personnelle ou tout simplement des boutiques appartenant à des particuliers. Et vous avez aujourd'hui 670 partis politiques, mais qui finalement ne sont pas efficaces. Lorsque vous prenez par exemple le résultat des élections de 2011, vous verrez que pas plus de 10 partis ont 11 élus. Et le plus grand parti, entre guillemets, celui qui arrive en tête, le PPRD, n'avait que 65 sièges. Ce qui lui donne un pourcentage de 13,46%. Donc un parti n'a que 13%. Donc ce sont des partis qui n'ont pas un ancrage sérieux sur la scène politique. Alors, on va faire le seuil, mais la question n'est pas simplement au niveau du seuil. C'est vrai que c'est une indication pour amener à de grands regroupements. Mais la problématique est plus profonde, elle est sociologique, c'est la fragmentation ethnique et tribale de notre société et l'absence d'idéologie capable de mobiliser le gens. Donc, nous avons des partis faibles et il faut donc que le financement des partis puisse aider à l'émergence des grands courants.
Quel est le mécanisme de fonctionnement de cette subvention de l'État? Encore une fois, on écoute le sénateur.
Il fallait mettre en place, comme vous l'avez dit, une commission interministérielle qui devait comprendre 12 délégués issus des services administratifs des ministères ayant dans leurs attributions les affaires intérieures, le budget, les finances, l'Assemblée nationale, les Sénats et la commission électorale nationale. Rien n'a été fait et voilà que, depuis 2011, alors qu'on devait consacrer entre 0,5 et 1% des recettes à caractère national au fonctionnement des partis politiques, et surtout, on devait consacrer 2% des recettes susvisées pour l'organisation ou les refinancements a posteriori des campagnes électorales. Rien n'a été fait, et aujourd'hui, nous nous trouvons avec plus de 600 partis kwashiorkorés qui fonctionnent difficilement.
Cette subvention de l'État doit être de quelle hauteur?
Comme dit la loi, c'est entre 0,5 dont être ni inférieur à 0,5% ni supérieur à 1% de la totalité de recettes à caractère national revenant à l'État. Et d'une part, pour le financement des campagnes électorales, il faut inscrire dans la loi des finances de l'année qui suit l'organisation de chaque consultation 2% de ces recettes-là. Donc, il y a une partie entre 0,5 et 1% qui doit chaque année être consacrée au fonctionnement. Et après l'année électorale, il est important qu'on puisse prendre prendre 2% de ses recettes pour rembourser, n'est-ce pas, les dépenses occasionnées par le dépense de fonctionnement. Donc, ces mécanismes de financement est inscrit dans la loi des finances et chaque année, donc, il est question donc de mettre en application ces mécanismes.
Et comment compenser ces retards à ces jours?
Justement, c'est ça, un des points sur lesquels la plupart de plateformes, notamment la plateforme MLC, UNC, Palou et d'autres, mettent sur la table. Oui, vous voulez qu'on paye la caution. D'abord, les cautions qui ont été payées pour les législatives qui n'ont pas été organisées. Qu'est-ce qu'on en a fait? Sans rembourser, mais surtout, l'article 28 avait donné mission au gouvernement de financer les partis politiques. Donc, ces dotations ont normalement été prévues dans le budget de 2012, dans le budget de 2013, 2014, 2015, 2016, 2018. Donc, ça fait 5 exercices budgétaires. Et si l'État doit, en appliquant cette loi, notamment pour le parti politique, qui sont en droit de bénéficier, parce que si on dit que c'était la législature 2012 et que peut-être il n'y a pas eu des élections législatives provinciales, mais il y a eu des élections législatives
nationales.
Donc à partir de cet élément, on peut trouver une piste de solution pour appliquer cette loi. Parce qu'il n'est pas dit que les subventions, c'est toutes les assemblées, non. Représentées au moins à une des assemblées délibérantes proportionnellement au nombre de leurs élus. Et les assemblées délibérantes visées à l'article 7, c'est l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Assemblée provinciale. Donc au moins l'Assemblée nationale, nous avons des indications claires qu'on peut déjà ou on pouvait déjà appliquer cette loi.
L'absence d'exécution de cette loi a certes des conséquences que le président du parti Orange, Fioun Dondoboni, évoque ici.
Mais la conséquence est cette instabilité politique que nous sommes en train de vivre. Vous croyez que tous ces débauchages, ces personnes qui vont de gauche à droite, ceux qui n'ont pas une forte personnalité, ceux qui n'ont pas le caractère, ceux qui n'ont pas un rêve, ceux qui n'ont pas une vision stable, ils sont à la recherche du minimum de moyens qui leur permettront d'aller aux élections. C'est ça, l'immoralité qui est en train de régner. Les gens cherchent par tout le moyen d'avoir le moyen qui leur permettront d'aller aux élections. Et ceux qui sont intègres, ceux qui sont corrects, ont du mal à en trouver. Et on pousse les gens à une voie de la non-intégrité. Et c'est dommage.
Après ce parti d'opposition non représenté dans les institutions, cette fois-ci, le secrétaire général de l'UDECO, cadre de la majorité présidentielle, explique la procédure pour réclamer ce financement public.
Mais je constate qu'à la date d'aujourd'hui, il est impossible pour le passé de réclamer le bénéfice de financement entre 2011 et 2018, dans la mesure où cela n'aurait pas été inscrit dans la loi des finances. La seule possibilité qui existe, c'est peut-être uniquement pour la cinquantaine des partis politiques concernés, d'engager une procédure en justice contre l'État congolais pour réclamer la réparation à concurrence du préjudice éventuel subi. Qu'ils auraient subi par le fait de n'avoir pas bénéficié matériellement de ce financement. Mais encore faut-il, il y a plusieurs conditions, encore faut-il pour les partis politiques de démontrer que lors des dernières élections de 2011, ces partis politiques ont respecté la parité hommes et femmes dans leur liste électorale. Si un parti politique avait aligné 100 candidats, il doit pouvoir prouver qu'il avait aligné 50 hommes et 50 femmes. Si cela n'a pas été fait, automatiquement, un tel parti n'est même pas éligible au bénéfice de ces financements. Ce n'est pas tout. Il faut encore que le parti politique établisse qu'il dispose, qu'il a tenu une comptabilité régulière conformément aux mécanismes de gestion prévus par la loi. Mais l'autre condition, c'est aussi que le parti politique doit prouver qu'il a un siège connu depuis 2011 et il doit le prouver soit en produisant un titre de propriété ou alors un bail régulièrement enregistré par la commune depuis 2011. L'autre détail important, c'est que pour pouvoir bénéficier de ce financement, eh bien le parti politique doit en faire la demande auprès de la commission interinstitutionnelle qui relève de l'autorité du ministre de l'Intérieur.
Cette commission n'existe pas encore.
Eh bien, l'obligation ici, c'est d'adresser le courrier à cette commission parce que cette commission, juridiquement, est censée exister. Il faut adresser ce courrier au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur en lui demandant de transmettre le dit courrier à la commission ad hoc. Et si cette commission n'existe pas, il y a là une responsabilité de l'État congolais qui peut aussi se retrouver engagé et les partis politiques qui remplissent toutes les conditions que je viens d'énumérer pourraient à ce moment-là, effectivement, engager une action en dommage intérêt contre l'État congolais, mais à condition de prouver effectivement qu'il y a bien eu un préjudice subi.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Droits et citoyenneté se poursuit. Nous parlons de la problématique du financement public des partis politiques. Nous recevons maintenant Madame Olenga Mado, secrétaire exécutif de FONUS, qui réfléchit sur le type de lobbying amené au sein des institutions où son parti est présent pour arracher la subvention de l'État tant attendue.
Donc nous voulons l'égalité des chances, que ceux qui sont au pouvoir et ceux de l'opposition puissent être au même pied d'égalité concernant le financement de leurs partis politiques. Vous savez, il y a des partis politiques qui existent et qui n'ont pas vraiment de députés au niveau de l'Assemblée ou qui n'ont pas de charges au niveau du gouvernement. Donc ça pose vraiment un problème sérieux au niveau du fonctionnement des partis politiques.
Est-ce que tous les partis politiques sont éligibles à ce financement?
Je pense que non, parce qu'il y a quand même des préalables pour accéder au financement, parce que les partis politiques doivent être d'abord réguliers, être enregistrés au ministère de l'Intérieur, et un parti politique doit avoir aussi un siège connu. Un parti politique doit disposer des comptes bancaires et un solde créditaire d'au moins de 2 500 000 francs congolais. Il y a aussi un parti politique qui doit tenir sa comptabilité régulièrement.
Vous êtes secrétaire exécutif chargé du mouvement des femmes des forces novatrices pour l'union et la solidarité, FONUS, parti du rassemblement Kasavubu. Est-ce que votre parti répond à cette exigence fixée par la loi? Est-ce que vous tenez régulièrement votre comptabilité?
Je pense que le FONUS est un grand parti politique qui répond aux exigences, aux conditions d'éligibilité. Nous avons quand même un député national. Au niveau provincial, nous avons des députés provinciaux. Mais vous savez, avec les conditions de notre parti, il y a des députés qui sont un peu des prostituées politiques et qui changent les jours au lendemain.
Votre parti, le FONUS, a l'avantage d'être aujourd'hui au sein des institutions.
Oui.
Quel lobbying peut-il faire à ce niveau-là pour arracher l'exécution de cette loi? Est-ce que le parti y réfléchit déjà au moment où il est dans les institutions?
Oui, bien sûr, parce que ce que nous pouvons faire, peut-être un lobbying au niveau du gouvernement, d'essayer et puis de stimuler pour que cela soit d'application.
Il faut booster.
Donc, essayer et puis de bousculer, de faire des lobbying pour que le gouvernement puisse prendre ça en considération et tenir compte de l'applicabilité de cette loi.
Bien, vous dites que comme on est au pouvoir, on a l'argent du pouvoir maintenant, ça suffit pour préparer les élections, on n'a plus besoin de ces financements.
Non, nous avons besoin de ça, monsieur. Les partis politiques en ont vraiment besoin de ces financements là, parce que c'est légal.
Et les partis qui ne sont pas représentés dans les institutions comme Orange pour recevoir une quelconque contribution de leurs membres, comment fonctionne-t-il, Fiyundo Ndoboni?
Nous vivons de cotisations, ça c'est la loi dans les modalités de survie d'un parti politique. Nous avons des cotisations, les membres ordinaires, les membres d'honneur et tous les autres de bonne volonté qui nous soutiennent par-ci par-là, des personnes qui croient à notre rêve, qui croient à notre vision, des personnes qui pensent qu'on peut faire, on est en train de faire différemment la politique pour transformer le devenir de cette nation. Ce sont toutes ces personnes qui s'investissent pour nous donner le minimum possible qui nous permet de fonctionner. Évidemment, ce sont de moyens énormes et personne en tant qu'individu ne peut réunir à lui seul l'ensemble de ces moyens qui puissent nous permettre de fonctionner comme il se doit. Voilà pourquoi c'est ce qui justifie justement la loi dont vous faites allusion. L'État devait mettre la main dans la pâte pour que le parti qui sont au minimum représentés au niveau de l'Assemblée, tout ça, soit soutenu par l'État. Mais malheureusement, d'après les informations que nous avons, ces financements n'est jamais venu. C'est une loi comme tant d'autres également, parce que nous avons affaire à un régime qui, d'abord, ne respecte pas les engagements, ne respecte pas la loi. Nous sommes en une année électorale. Difficilement, nous, qui ne sommes pas représentés au niveau des institutions, nous avons du mal, mais de partenaires, de personnalités, des individus, nous-mêmes les membres, qui croyons à notre rêve, à notre vision, nous mobilisons nos finances, nous nous organisons pour répondre à ces grands rendez-vous électoraux électorale.
Nous revenons à notre invité principal, Jacques Joly, pour évoquer le financement public des partis dédoublés avec le même logo. Le problème que cela soulèverait si la loi était appliquée sans mettre fin à ces dédoublements.
La question de dédoubler un parti politique, c'est une question qui pose un problème de la moralité de la gestion de notre système politique. Mais en ce qui concerne particulièrement cette question des dédoublements, et nous nous félicitons de la piste dégagée par les amis qui sont dans ce qu'on appelle le CELSA. Si vous prenez le registre des partis politiques, ça ne devait même pas poser de problème. Et d'ailleurs, on l'a vu, les PDC, c'est les partis.
José Ndoundou.
Et nous espérons qu'on va continuer à régler ces problèmes à ce qui concerne le MCR. Si vous prenez la liste des partis politiques reconnus en 2008 au numéro 130, MCR, Mouvement Social pour le Renouveau, base numéro, arrêté numéro 91-0402 du 21 mars 91. Le siège est donné, numéro 554-48, avenue de la Justice, Pierre Okongo. Mais plus tard, il y a un autre MCR qui apparaît au nom d'une autre personne. Non, c'est le ministère qui joue ses yeux malveillants de dédoubler les partis. J'attends même qu'on parle d'un dédoublement de l'UDPS. C'est ridicule. L'UDPS a été reconnu sur base de la loi de 2004 qui constatait qu'il y a d'autres partis qui existaient déjà. Et ces partis appartiennent à Étienne Tshisekedi. Et son siège, c'est Avenue Pétunias. Alors, si un parti veut prendre ses logos, ses identités, c'est une fraude. Et l'État, dans sa neutralité, ne peut pas cautionner la fraude. Donc, il nous appartient simplement à nous de construire une démocratie sur base de textes, sur base de lois, sur base de la vérité et des vertus. Et on n'aura pas ces faux problèmes de dédoublement.
Nous allons conclure sur l'avenir de cette loi. Quelle chance on peut lui donner encore à ce jour? Peut-on qualifier cette loi d'une loi désuète? Et le parlementaire que vous êtes, vous aurez été défaillant dans le contrôle au point que vous avez fermé les yeux sur l'application de cette loi?
Non, le travail de législateur, c'est d'élaborer des lois. Et ces lois doivent être appliquées par l'exécutif. Il ne s'agit pas tout simplement de cette loi. Il s'agit de l'ensemble de notre système juridique. Si vous prenez notre constitution, vous verrez qu'il y a des piliers entiers qui sont encore non installés. Je prends le pilier judiciaire. La cour constitutionnelle est là. Mais l'éclatement en trois ordres de juridiction. L'ordre de juridiction administrative reste une illusion. L'ordre de juridiction de l'ordre judiciaire.
Même la cour constitutionnelle, même
la cour constitutionnelle,
reste encore incomplète.
Elle est encore incomplète. Il n'y a pas encore des conseillers référendaires. Donc il n'y a aucun schéma programmatique de la mise en place des institutions. Et c'est la même chose si nous revenons sur l'architecture de consolidation des partis politiques. La loi sur les partis politiques qui date de 2004. Et il y a une autre loi, la loi sur l'opposition, qui est une loi importante qui devait donner énormément de moyens à l'opposition pour assurer son travail. Vous voyez ce que l'opposition a perdu aujourd'hui en termes de valeur, en termes d'hommes, tout simplement parce que ne pouvant pas tenir dans l'opposition, ils sont obligés de faire la transhumance. Donc, pour consolider la démocratie, nous avons, il y a eu des lois qui ont été prises. Mais là encore, vous avez raison, il ne suffit pas de promulguer les lois, il faut les appliquer et il appartient aux assemblées d'en assurer le suivi et l'évaluation. Et sur ces points-là, nous avons au niveau du Sénat, interpellé par les collègues Modeste Moutinga, le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Mouyège, qui a dit que c'était lié au processus électoral. Mais on ne doit pas attendre l'ensemble du processus. Donc il faut, pour qu'il y ait une démocratie vitalisée, il faut des démocrates. C'est-à-dire, je suis majoritaire, mais je veux qu'il y ait une opposition revitalisée pour me donner, n'est-ce pas, l'autre son de cloche, et de ces deux sons de cloche découlera ou se dégagera la vérité.
Il vous appartient aussi, vous les parlementaires, de contrôler, de sanctionner ceux qui n'exécutent pas les lois que vous votez.
Il faut que la majorité accepte le contrôle. Lorsque, à chaque interpellation, vous soulevez des motions de procédure, c'est que c'est une démocratie de pacotille et qui ne peut que produire du blocage comme actuel.
Merci, professeur.
Merci, mon grand.
L'avenir de la démocratie congolaise repose notamment sur le respect des textes, l'application des lois. Une chose est de les voter, mais une autre est de les appliquer. Une autre étant d'en assurer le suivi, le contrôle parlementaire. Voilà qu'il s'y est de comprendre en définitive. Ainsi s'achève ce magazine Droits et Citoyenneté qui s'est penché sur la problématique du financement public des partis politiques. Merci de votre aimable écoute et bonne suite de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.